Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 20h sur Transistor et vous nous écoutez soit en direct depuis transistor.fr ou bien directement de visu depuis la salle 1 place de l'école occupée à l'ENS de Lyon, d'où nous émettons en direct ce soir pour une édition un petit peu spéciale. Nous sommes donc le jeudi 10 mai et c'est parti, toute l'équipe est avec nous pour vous récolter l'information du moment et la retransmettre mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Décidément, je fourche à chaque fois là-dessus. Alors, la grille du coup est un petit peu bousculée en conséquence puisque suite au journal, nous retrouverons quelques-unes des occupants pour une petite interview et après le décortiquage de François René, nous retrouverons à l'ADMI, la revue de presse, l'édito Echo. Nous terminerons bien sûr avec un journal de la culture et puis en point d'orgue à la fin, on parlera un petit peu de sport avec quelques victoires à célébrer, je crois, François René. Mais tout de suite, on ne tarde pas et on vous retrouve donc, François René et Maë. Bonsoir à tous les deux et c'est parti pour votre
bonsoir,
journal.
Rémi. Bonsoir. Au national d'abord. Alors que s'achève aujourd'hui le 19e jour de grève à la SNCF, l'intersyndicale a décidé de faire voter les cheminots pour leur demander s'ils sont pour ou contre la réforme ferroviaire.
Une consultation aura lieu du 14 au 21 mai.
Les différents syndicats établiront ensemble une liste d'urnes fixes, accessibles lors des AG, mais aussi des urnes mobiles afin d'aller à la rencontre des non-grévistes. En effet, les syndicats ont fait entendre leur volonté de maximiser le nombre de votants sans effrayer les non-grévistes ou peu militants, en leur garantissant notamment un complet anonymat. Cependant, du côté de la direction et du côté du gouvernement, on ne cautionne pas cette initiative, considérant que la réforme ferroviaire n'est pas une question interne à la SNCF, mais qui concerne tous les Français et qui doit par là même passer par leurs représentants et par les parlements. Reste à savoir si les dits Français seront réellement entendus ou alors sauront se faire entendre. Hier, l'université du Mirail, occupée depuis la mi-décembre et lieu symbolique de la mobilisation étudiante, a été évacuée par les CRS sur décision d'un juge administratif. Mise sous tutelle d'un administrateur provisoire, Richard Lagagné, depuis le 21 mars, l'occupation de l'université avait réussi à mobiliser massivement des étudiants et son évacuation s'inscrit dans la continuité des interventions policières de ces dernières semaines dans les différentes facs françaises.
Les étudiants mobilisés ont tenté de contrer l'intervention des forces de l'ordre en se réunissant d'urgence et en créant des chaînes humaines.
A priori, pas de blessés à déplorer, mais une violence diffuse et l'arrestation d'un étudiant. 180 policiers pour 60 étudiants, le ratio était encore très équilibré, comme vous le constatez. L'administrateur Lagagné a quant à lui déploré les dégradations constatées et pour lesquelles a été déposée une plainte. Il a également fait part de sa volonté de maintenir les examens qui devraient commencer le 11 juin au Mirail ou bien délocalisés. Le projet de réforme des institutions présenté par Macron en juillet 2017 a été lancé mercredi avec la présentation du volet constitutionnel en Conseil des ministres.
Le gouvernement a confirmé plusieurs mesures comme la suppression de la Cour de justice de la République, la disparition du statut de membre de droit du Conseil constitutionnel pour les ex-chefs de l'État, ou la nomination des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature.
Ces dispositions restent cependant largement critiquées à gauche comme à droite, où on estime que l'exécutif tente d'instaurer une limitation du droit d'amendement, de réduire les navettes parlementaires au profit de l'Assemblée, ou de donner la priorité à certains textes gouvernementaux dans l'ordre du jour. Un bras de fer s'est engagé entre le Sénat et le gouvernement, ce dernier tentant de faire passer en force ces réformes.
International maintenant, c'était une promesse de campagne et c'est donc sans réelle surprise que Donald Trump a annoncé mardi le retrait de son pays de l'accord sur le nucléaire européen signé en juillet 2015. Cette décision a été saluée par les adversaires de Téhéran au Moyen-Orient, Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats.
Les signataires, eux, soupirent car l'accord paraphé à Vienne entre l'Iran et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, avait demandé pas moins de 12 ans de négociations.
Rappelons que cet accord vise à lever visait à lever progressivement les sanctions qui pesaient depuis des années sur l'Iran, celles instaurées par les États-Unis dès 1979 ou celles imposées par les Nations Unies entre 2006 et 2010 ou par l'Union Européenne en 2007, alors que l'Iran était sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, désireux de reprendre le programme d'enrichissement d'uranium iranien. En échange d'une levée de ces sanctions, Téhéran s'engageait à ne pas chercher à se doter de l'arme atomique. Enfin, l'accord prévoit également des visites régulières sur tous les sites nucléaires iraniens par les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Aujourd'hui, je cite, « Nous avons la preuve définitive, je cite Donald Trump, la preuve définitive que la promesse iranienne était un mensonge. En réalité, la preuve en question est un plan d'enrichissement de l'uranium datant de 2011, soit avant la signature de l'accord. Toutes les inspections de l'Agence internationale pour l'énergie atomique depuis 2015 ont à contrario montré que l'Iran s'était strictement conformé aux exigences de l'accord. La question qui se pose maintenant est, l'accord peut-il survivre au retrait américain ? Théoriquement oui, tant que l'Iran ne se retire pas. Mais il faudrait pour cela qu'il y trouve un bénéfice économique, ce qui dépendra en fait de la dureté des sanctions américaines. On peut être sceptique, d'autant que ce nouvel état des choses fait le jeu des ultra-conservateurs au détriment du président Hassan Rouhani.
Iran toujours, les tensions augmentent entre le régime chiite et Israël.
Oui, hier, pour la première fois, des roquettes attribuées à l'Iran ont été tirées vers Israël, qui a riposté. Elles ont visé sans succès les premières positions de l'armée israélienne sur le plateau du Golan, annexé en 81 par l'État hébreu. Aucune victime n'a été enregistrée. Le système de défense antiaérien Dôme de Fer a intercepté plusieurs roquettes parmi les 20 qui ont été tirées, dont aucune n'aurait atteint le territoire contrôlé par Israël. Vers 2h du matin, les habitants ont été autorisés à sortir des abris, les écoles devant rouvrir normalement dans la matinée. Israël a répondu immédiatement et avec une ampleur inédite à cette salve qui était attendue depuis déjà plusieurs années. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état d'au moins 23 morts dans les bombardements israéliens, dont 5 soldats syriens et 18 membres de forces alliées à Bachar el-Assad, dont l'Iran fait partie. Ce matin, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, s'est réjoui que l'armée ait frappé la plupart des infrastructures iraniennes en Syrie. Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'État européens ont quant à eux appelé à la désescalade. Brésil pour finir, Joaquim Barbosa, l'ancien président de la Cour suprême brésilienne, renonce officiellement à se présenter aux élections présidentielles. Barbosa, 63 ans, pardon, socialiste très populaire et coqueluche des sondages de ces dernières semaines, était perçu comme l'homme providentiel dans un monde politique gangrené par la corruption. Il ne sera pourtant pas l'homme providentiel que le pays attend. L'ex-magistrat a renoncé mardi 8 mai à se présenter. Sur Twitter, le père de famille explique son choix par des raisons strictement personnelles.
Selon ses proches, il aurait été échaudé par le climat politique tumultueux qui règne actuellement au Brésil.
Il était crédité de 8 à 16% d'intention de vote au premier tour. Une popularité déconcertante pour un homme sans programme qui n'a jamais fait part de son souhait d'être président. Un témoin du désarroi des électeurs brésiliens avide de nouveautés. 4 ans après le déclenchement de l'opération anticorruption Lava Jato et la mise au jour d'un gigantesque système de pots de vin orchestré entre les groupes publics, les sociétés privées et les partis politiques, les Brésiliens ont perdu foi en leurs élites. Barbosa, fils de maçon, noir, francophile diplômé d'Assas, qui avait gravi un à un les échelons de la magistrature, faisait pourtant exception. Les analystes craignent désormais que les candidats modérés soient concurrencés par le candidat de l'extrême droite, Bolsonaro, un grand nostalgique de la dictature militaire.
Et on passe maintenant au sujet long.